Regardez. N'imagine-t-on pas quelqu'un assis et rêvant? Ne sentons-nous pas ces rêveries suivant les couleurs du paysage? Nous ne sommes plus devant la nature, mais devant la rencontre de l'homme avec celle-ci.
CO2, mon amour.
Marquis, vous touchez juste. Mais pourquoi m'avoir demandé deux fauteuils alors qu'un seul suffisait?
C'est que je n'ai pas terminé ma démonstration. Ces deux fauteuils ne nous laissent-ils pas supposer deux personnes assises, silencieuses, côte à côte?
Avec Denis Chessou.
L'âme unie devant le même paysage, liée par un lien aussi sacré que l'imperturbable sérénité de la nature.
Sur France Inter.
Mademoiselle de Jonquière, pour ouvrir donc ce CO2 mon amour, donc la nature qui chuchote à vos oreilles. J'espère que vous allez bien. Nous travaillons la technique avec Adèle Cagla aujourd'hui et assistée de Camille Blanès. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. S'en est passé des choses, hein, quasiment 6 semaines. Ben oui, alors a-t-on pris dans le monde le dérèglement climatique plus au sérieux? Et s'est-on dit par hasard, soigner la Terre, c'est nous soigner nous-mêmes? Non, je vous rassure, on ne s'est pas dit tout ça. On a bouffé du Djokovic non vacciné à la louche, du tartinage toutes les heures comme si notre sort en dépendait. Ah, il y a des coups de béquilles qui se perdent dans les médias, mais mon orthopédiste m'a dit « Non, vous êtes en convalescence, vous laissez vos béquilles tranquilles. » Quoi d'autre? Eh ben, on veut nous faire passer le nucléaire, sauf le combustible, hein, qui est un détail importé, pour une énergie quasiment verte et durable. Alors, les protons se frottent leur petite papate radioactive. Vive ce mot incompréhensible de taxonomie. Alors c'est sûr que même vieillissant et coûteux, durable, le nucléaire va l'être très longtemps. Il s'en va des centrales comme de nous tous, plus on vieillit, plus on coûte cher à la sécu. Et en même temps, 8000 mâts d'éoliennes supplémentaires attendent qu'on les arrose pour embellir nos paysages grâce au subventionnement de nos factures. Alors je sais, rien n'est simple dans ce domaine, surtout si on ne pense qu'à la production d'électricité et non aux réductions à faire. Un coup de béquille n'y pourrait pas grand-chose. Et dans le ciel? Eh bien dans le ciel, les grosses mouches à réaction sont restées collées, on le sait, à terre, comme après une bonne giclée de bomberettes spéciales insectes volants. Bon, après tout, le virus nous a reposé un petit peu les yeux, à force de zébrer le ciel, de belles traces de vapeur d'eau dans tous les sens. Mais, depuis... ce serait mal connaître l'espèce humaine. Un pilote est fait pour piloter, sinon il s'encroûte et il perd ses acquis. C'est d'accord. Ce système, virus ou pas, a horreur du vide. Même si la clientèle n'est pas là, l'Union européenne l'a fabriqué depuis 1993. Et ça, moi j'en parlais déjà dans CO2, juste à ses débuts. On se réveille maintenant, car depuis octobre, c'est reparti. On vole à vide! On découvre comme si c'était une nouveauté les avions fantômes. Pourquoi? Pour éviter de perdre ce qu'on appelle ces slots, c'est-à-dire ces créneaux de décollage et d'atterrissage. La réglementation européenne contraint les compagnies à les utiliser à hauteur d'au moins 80% au risque d'être redistribués à des concurrents. Eh ouais! Et donc, comme savent le faire des hommes, on fait pipi sur son territoire. Là, je parle bien des hommes. Dans le ciel, donc un grand coup de pollution gratuite, de réchauffement et d'absurdité libérale en bandoulière. Saine gestion donc de l'espace aérien. Ce monde est fou, ça on le sait. Et là aussi, il y a des coups de béquilles qui se perdent. Alors, regardons la nature quand même. Ah, zen, qui nous apaise, à laquelle nous appartenons et qui a raison d'être dans cette émission. Les vents sont encore frais, et ça c'est bien, pas trop chaud tout de suite, ça pourrait fourvoyer les bourgeons, mais les jours s'allongent comme les ombres à la pleine lune et la nuit retient pour nous dans sa course vagabonde le chant d'amour du grand-duc qui a lieu en ce moment. Ils font leur tournée, leur pas celle du tout, fastueuse des ducs russes à Paris à la fin du 19e siècle, mais la nuit est à eux, silencieux, sans prédateurs, ils volent comme des fantômes, jamais à vide, sans pollution. Et face à nos folies se pose la même question que nous, que l'avenir ne nous échappe pas. Alors au menu de cette émission, vous l'avez compris, ça va être donc Pierce Faccini, chanteur plante, chanteur schiste, chanteur arbre, chanteur fontaine que j'ai rencontré en ces terres d'adoption Sévenol, construisant sa maison et s'inspirant des sources.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fier que celle qu'on pas souffert. Je suis noir, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Bel hommage donc à Saint-Étienne, signé donc Lavilliers, vous le savez, et j'aimerais bien un jour retourner pour faire des sujets nature. On n'y pense pas forcément quand on pense à Saint-Étienne, mais au-dessus vous avez donc le Pilat, vous avez le Forez, vous avez le Yon. Autre musicien et autre lieu, nous partons dans les Cévennes avec Pierre Sfaccini.
Ce qui est chouette ici, c'est qu'on est dans une sorte de pointe de granit qui commence, et juste en bas, on est dans le schiste. Et donc c'est le mariage du schiste et du granitique. Et puis c'est aussi le croisement, une sorte de frontière, ou symbiose presque, entre la Méditerranée et la montagne, parce qu'on est vraiment dans les premières montagnes des Cévennes. Quand j'ai visité la maison, qui était couverte de ronces, et où il y avait énormément de... vraiment une maison, on peut imaginer, à l'abandon, en semi-ruine, c'était une chose d'imaginer la maison rétabli, mais même si j'ai coupé quelques arbres ici qui tombaient, j'ai pas fait grand chose. Ce lieu m'a saisi en fait, et je suis tombé amoureux. Et vous voyez la fraîcheur qu'on a tout de suite, on est dans les sons, on est dans la fraîcheur, le petit vent, et surtout cette voûte extraordinaire qui est très ancienne. C'est d'une beauté, la façon dont elle fait pont sur le ravin. Les murs en pierre sèche et puis ces voûtes énormes Cévenoles, c'est un peu les, c'est les mini pyramides des Cévennes en fait. C'est, pour moi, c'est ça.
Histoire d'un pays qui monte et qui descend dans un joli coin des Cévennes, dans le Gard. Alors on n'est pas très loin de Saint-Hippolyte-du-Fort, de La Salle, au lieu protestant des Cévennes, donc terre d'accueil d'exilés qui a séduit Pierre Sfaccini. Alors on n'est plus dans la plaine, hein, maintenant, donc on n'est pas dans la Garrigue, dans le chêne Kermès, non, on est à Saint-Romain-de-Caudière. Les Caudières sont des gros galets, des amarres roulées, traînées par la rivière. Alors la peinture est son premier mode d'expression à Sfaccini, donc elle est... Les racines sont dans les pinceaux. Ce peintre, en fait, nous est beaucoup plus familier comme auteur, compositeur, chanteur, folk acoustique, qui puise sa richesse dans une multitude vraiment de sources profondes, hein, homme des métissages musicaux s'il en est. Et de source, il en sera donc question dans un pays de trop et de pas assez d'eau, sujet au phénomène méditerranéen. Et là, on est loin, bien sûr, de la campagne anglaise de ses origines. L'homme est relié à ce terroir, à ces banquettes de terre qu'il faut remonter. Et quelle a été, en fait, sa première rencontre avec les Cévennes ?
C'était vraiment un coup de foudre. Et puis le truc qui... C'est comme tout, c'est comme une rencontre amoureuse. C'est comme quand j'ai rencontré ma femme. Quand on regarde la façon dont ça se passe, on se rend compte qu'on n'a rien fait. C'est juste... Les voies se sont croisées à cet endroit-là. Et je me rappelle cette première fois qu'on a descendu les corniches des Cévennes avec ma femme. On était dans un van combi Volkswagen, on dormait dedans. On avait tout laissé, nos affaires, on avait tout plié, nos vies à Londres. Et on était devenus un peu nomades pendant quelques mois avec ce van. On descend les corniches des Cévennes. Et puis doucement, je crois que le deuxième jour, on a fait littéralement un tour dans cette vallée. Et c'est drôle parce que 17 ans plus tard, en fait, on est en train de déménager presque à l'endroit même où je suis tombé amoureux des Cévennes. Et j'ai cherché une maison pendant 17 ans. mais j'avais déjà repéré le lieu qui m'enchantait le plus. Et c'est cette vallée, la vallée du Rocodier, juste en bas de Saint-Romain-de-Caudière.
Ah, là, les yeux au ciel. Car, rapace.
On entend... voilà, on entend. Et c'est... Alors en anglais, on appelle ça « short-toed eagle ». Et si j'ai bien compris, c'est Sirkette en français. Alors
peut-être... Sirkette, Jean Leblanc.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est
et donc, on a la chance inouïe d'en avoir deux qui nichent juste à peu près 3 ou 4 terrasses au-dessus. Et en arrivant ici il y a un an, voilà, on l'entend. Magnifique. Et on a eu la chance, j'ai eu une visite d'un ornithologue qui m'a tout de suite dit...
il est rare.
Voilà, il m'a tout de suite dit, voilà, vous avez ce trésor chez vous, et puis est-ce que je peux venir de temps en temps ? Je dis, mais tu viens quand tu veux, je vais t'accompagner, tu vas me raconter toute l'histoire.
Ouais. Alors ça veut dire donc, aussi la bonne nouvelle, c'est que vous avez des serpents, puisque donc le cercueil de Jean Leblanc se nourrit de serpents.
C'est ça, ouais.
Faut vraiment pas en avoir peur, ils sont là. C'est une terre qui permet aussi d'élargir le regard, même si on n'a pas forcément des horizons.
C'est ça.
Mais c'est aussi sa fonction, quoi.
Ce qui est beau ici, c'est qu'en fait, si on veut vraiment avoir un horizon un peu plus lointain...
On monte un tout petit peu,
on
là.
On monte un tout petit peu, et c'est extraordinaire, parce que même d'une terrasse à une autre,
ouais.
Ça change. Pendant tout le confinement, tous les jours, je venais travailler ici, parce qu'il y a une grande travail de nettoyage, d'abord du site et ensuite des travaux, que je fais en partie. Et en fait, à chaque journée que je venais ici, je me donnais le cadeau d'avoir une heure et demie, parfois 2 heures, après avoir bien travaillé, de découvrir cette montagne, de découvrir ces sentiers, ces arbres, ces sons, ces rochers, ces sources. Et ça, c'est extraordinaire. Là, je suis vraiment comme un enfant dans un énorme parc de jouets. Alors, les gens ils me disent « Ah, mais tu passes toute la journée tout seul. » Mais en fait, je suis tout sauf seul, en fait. Là, on est avec le vent, on est avec la source, on a les cirquettes. On a toutes sortes d'oiseaux au printemps. On a les rossignols même ici. J'étais pas sûr qu'on aurait les rossignols parce qu'on les a dans la garrigue.
Au mois d'avril, c'est extraordinaire, le rossignol.
Mais j'étais tellement content de voir, même s'il y en a moins ici que dans la garrigue où on a été pendant 16 ans, mm-hmm. où il y a énormément de rossignols. Mais ici, il y a encore des rossignols. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici, il n'y a pas de pollution, ni de lumière, ni de bruit. Donc la nuit... Le chant du rossignol résonne dans cette grande vallée, mais dans cette petite tranche, qui elle aussi est une sorte de sono. Eh bien, j'ai presque rarement entendu le chant d'un rossignol aussi beau qu'ici, en fait.
Alors évidemment, dans votre dernier album, donc sur la chute, l'oiseau a toute son importance parce que vous dites ils ne récolteront pas de graines ou plus de graines. Donc c'est quand même la complainte d'un animal qui est dans un cycle totalement bouleversé. Rendez-moi ma maison, rendez-moi oui. mes saisons.
Quoi. C'est ça. Et puis nous, on est dans ce champ. En fait, c'est un champ qui nous réunit tous. En fait, c'est... et puis même d'une façon presque animiste, c'est aussi l'arbre qui dit rendez-moi ma maison. C'est la feuille, c'est la racine, c'est l'insecte. C'est l'abeille, c'est l'oiseau, c'est les mammifères, c'est même le rocher, même la source. Rendez-moi ma maison, c'est le langage, quelque part, le plus humain que je pouvais donner en termes de mots pour coller sur cette complainte animale, en fait.
But a hunger instead.
Alors avec vous, Pierce, on est vraiment, j'allais dire, dans le champ de la terre. Parce que cette musique, c'est pour ça que vous avez toute votre place dans cette émission, donc elle vient beaucoup de la nature.
Le son de l'eau, le son du vent, c'est quand même un peu les premières musiques, quelque part. Le son des rochers, le son des plaques tectoniques qui oui. s'échevauchent, ça c'est les premiers sons. Et puis après, moi, j'adore l'idée aussi que, en fait, tout ce qu'on fait en musique est quand même lié à quelque chose d'extrêmement ancien, c'est-à-dire le premier langage, la première complainte de l'homme, d'une femme, qui, juste un moment, s'extrait du moment, se rappelle de quelque chose et l'évoque.
Ah, et alors là, on a une chose extrêmement importante lorsque vous grimpez. En fait, on grimpe sur le travail des femmes et des hommes. Ça s'appelle les traversiers. Ça s'appelle des faïs, c'est-à-dire tout ce qui a été gagné sur le caillou pour avoir donc des petits lopins de terre. Quoi.
Absolument. En fait, la nature a pris le dessus sur ces traversiers, ces faïs. Et en fait, nous, on a déjà commencé. Je pense que c'est la première chose quand on vient dans les Cévennes, c'est l'acte de remonter des murs en pierre sèche. Donc, on a fait nos premières tranchées juste en bas. Là.
Ah, ouais.
Ça va continuer jusqu'au dernier souffle, je pense, et j'espère. C'est comme le moine tibétain qui met un mandala avec tous ses grains colorés de sable. En fait, il sait qu'à un moment, ça va s'effacer, mais il faut les remonter. Et elles vont, à un moment, peut-être, on ne va pas s'en occuper. Elles vont tomber, on va les remonter, elles vont tomber, on va les remonter. Mmh. Et donc, le plaisir de remonter avec passion quelque chose qu'au final, on sait va tomber.
Ah, alors là...
Denis, je vais vous présenter... Thierry Bresson.
Bonjour
Denis
Thierry.
Chessou.
Bonjour, enchanté.
Eh ben, ravi tout plein. Un des derniers artisans quand même ici ou...
oh, un des derniers, je pense que les jeunes vont reprendre la main.
Alors ici, travailler la pierre, qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, travailler la pierre, c'est regarder ce qu'ont fait les anciens. Hein. Et voilà, c'est en regardant qu'on apprend. Quoi. En respectant les traditions, en respectant les liens, la terre, la chaux, les sables locaux.
Et une des choses que j'aime beaucoup chez Thierry, c'est une forme de transmission, en fait. C'est-à-dire que quand il travaille, quand je l'observe travailler, quand il parle des matériaux, c'est-à-dire il a toujours dans l'idée d'essayer de presque de toujours réapprendre, parce qu'on est toujours une sorte d'étudiant perpétuel dans tout ce qu'on fait. Et Thierry, il parle vraiment toujours des anciens et toujours de leur savoir qui se perd et qui s'est un peu perdu. Un coin d'enduit qui s'est effondré, eh bien Thierry, il va essayer de comprendre la recette exacte de cet enduit ancien, qui est essentiellement de la terre avec un peu de sable de rivière et un peu de chaux. Eh bien Thierry, il va s'obséder pour trouver la recette, pour faire en sorte que vous allez arriver dans un an, et ce petit bout, vous allez avoir l'impression que c'est exactement le même enduit. C'est cet enduit qui a peut-être quoi, 200 ans ou...
Ah oui, tout à fait, oui, parce que la maison, elle est
du 13e,
du 13e,
crois.
Voilà, ouais. Oh, oui. C'est une maison qui a été construite toute à la terre, avec la terre prise sur place.
Les Cévenols nous ont montré tout ça, et en fait c'est drôle, on parle aujourd'hui des enduits à la terre, à la chaux, comme si c'était quelque chose de nouveau et d'écologique,
pas
mais c'est le plus ancien.
Pas du tout, absolument.
C'est le plus ancien. Voilà, et donc on fait ça en France, comme autour de la Méditerranée, bien sûr, et c'est vraiment passionnant. Et puis aussi, le concept de la maison Cévenol, c'est extraordinaire, c'est la maison Cévenol, donc construite contre le rocher, sous ses caves voûtées, avec la magnanerie en haut, avec les animaux en bas, enfin, il y a tout un système, c'est un vaisseau spatial et écologique en fait, ouais. Qu'on a un peu perdu de savoir, Et pour moi, Thierry, c'est quelqu'un qui a encore le savoir sur ses manettes et comment les naviguer, quoi.
Et puis, il y a des bâtisseuses extraordinaires aussi qui vont vous remercier. Ce seront donc les futures hirondelles qui vont aller se loger dans les, dans les génoises.
Oui, hein, tout à fait. Et il faut effectivement toujours laisser des petits trous dans les murs, pour, justement pour les hirondelles, pour les oiseaux, pour...
Les chauves-souris aussi.
Les chauves-souris, tout à fait.
Il y en a beaucoup, des chauves-souris,
oui, bien sûr. Et alors, ce lieu va aussi être un lieu de transmission. Ça, c'est un mot qui est extrêmement fort parce que vous souhaitez donc créer, je ne sais pas si ce sera une école, mais enfin, en tout cas, un lieu où vous pourrez recevoir des gens pour parler, chansons, transmettre le savoir-faire qu'est le vôtre, Pierce.
L'ambition, c'est un peu d'avoir un lieu où on peut avoir une discussion et un échange et un partage autour de la culture dans tout son sens le plus large. C'est-à-dire qui réunit culture de la terre comme culture intérieure, comme culture, art, écriture, musique, composition. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire, d'être un auteur ou un compositeur dans un contexte plus large qui est cette écoute et cette présence qui se dégage dans un lieu comme ça ?
La rencontre n'est pas terminée. Nous irons dans l'église de Saint-Romain de Caudière et nous irons aussi aux sources, retrouver donc les sources qui sont au-dessus de la maison de Pierce Facchini. Il ne fait pas que de reconstruire sa maison et de remonter de la terre. Hein, il continue donc à composer, donc Pierce Facchini, sûrement enregistré chez lui.
Voilà 30 ans que je me sens doué pour la sieste.
Denis Chesson.
Du champ bien frappé, une chaise longue et un étang avec des canards.
CO2, mon amour.
Des chevaux, des canards.
Des canards.
Sur France Inter.
C'est con, les canards. mais ça fait cossu.
C'est ça, ça fait cossu. C'est une autre philosophie de la vie, hein, remarquez bien, c'est autre chose. C'est pas exactement celle de Pierre Sfaccini, non, pas du tout. Lui, il les voit voler, les canards, il les a pas dans un étang. Eh non, absolument pas, on est toujours... Toujours sur France Inter, c'est au de mon amour. On n'est pas loin de Ganges, on n'est pas loin de Sumène, et on est donc à Saint-Romain-de-Caudière, donc accroché au vraiment au, à la montagne qui est juste là. Et vous avez donc un certain nombre de mâts, de hameaux comme ça qui s'égrènent, quand même entre 300 mètres et 1000 mètres d'altitude. Hein, tout ça, la vie d'ourle non plus n'est pas loin. Et donc on va poursuivre ce voyage. Et là, écoutez, on va rentrer dans l'église de Saint-Romain-de-Caudière. Roman, on s'en doute.
Depuis les 17 ans qu'on habite dans les Cévennes, je fais les tours de toutes les églises. Donc il y en a énormément, dans plein d'états différents. Évidemment, c'est une rencontre avec le son, la présence du son, la façon dont elle résonne et circule dans ces pierres. Et puis c'est différent à chaque fois. Celle-ci est assez grande. Elle a aussi été restaurée. Mais n'empêche que, même si dans l'église de Saint-Romain, il y a une petite moquette qui a été mise sûrement pour absorber le son. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le contraire. Je vais vous donner un exemple, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le son va résonner avec ces pierres.
Pour vous sont faits pour à la fois, évidemment c'est le principe d'une église, de raviver la foi, mais aussi de raviver, j'ai toute la sensibilité qu'on a en nous qui va passer à la fois par votre amour de la peinture et votre amour de la musique, mais de façon très épurée.
Qu'on ait de la foi ou pas, quelque part on pourrait dire le lieu du culte, c'est comme un poste d'écoute sur lequel on se branche. Donc moi, mon église, mon temple, c'est plutôt sous un chêne ou sous un grand tilleul, dans la montagne, en regardant la façon dont l'eau jaillit du rocher à la source. Pour moi, c'est ça le miracle. Donc, je n'ai pas forcément besoin de rentrer dans un lieu de culte construit par l'homme pour le sentir. Mais bon, ça, c'est très personnel. Mais après, à mon sens, ce sont des façons d'écouter et de se mettre à l'écoute du monde et de la nature, qui sont extrêmement complémentaires. Donc c'est comme si c'était le lieu qui est le premier instrument quand on chante ici. C'est un moment que j'adore, où je suis tout seul dans l'église, où donc je teste avec des petites percussions, des voix qui traînent, des voix qui sont un peu plus poussées, un peu plus douces. Et comme ça, je peux percevoir un peu plus le filtre que je vais avoir, qui est un instrument, donc qui est la façon dont le son va être porté. Parce que, en fait, la résonance, dans un certain sens, c'est comme la sono d'autrefois.
Vous nous conviez, en fait, à une certaine épure, c'est-à-dire d'essayer de retrouver donc un essentiel, que ce soit donc dans le silence, dans les mots, dans les chants et dans le regard.
Absolument. Ici, on peut faire trois notes, et pourquoi en faire huit ou neuf? Et c'est dans la façon dont le silence vibre et danse entre les mots et entre les notes qu'on invite la présence. Et en fait, c'est pas en remplissant le silence, puisque la présence même est un dialogue avec le silence et tout ce qui danse dedans et à travers.
Hop, je vous laisse passer devant. Ah, alors là, on arrive.
On va traverser le ravin qui descendait dans la mine d'eau,
directement,
en bas.
Directement, c'est ça.
Et on va continuer, on va faire le tour. Et on va remonter encore un peu pour voir la source même. Donc la citerne, on va la mettre juste là, en fait.
C'est-à-dire que là, vous allez en amont, donc capter l'eau.
Ouais, capter l'eau en bas avec un tuyau qui va descendre le reste du...
Et avec la gravité, ça va le faire, quoi.
Et ensuite, voilà, il va de la citerne, on va avoir deux tuyaux. Donc, un qui va relier la maison avec la pression quand on ouvre les robinets, et l'autre qui sera le trop-plein, qui va alimenter un petit bassin dans la cour intérieure et le bassin extérieur.
High in the peak, shadows fall, deeper the well, the echo calls.
Dans cet album, Chief of the Fall, c'est-à-dire les formes de la chute, bah vous évoquez justement différentes formes d'effondrement. Vous avez fait cela pour mettre des mots, pour tenter des petits bouts de guérison, en embarquant du monde dans l'Arche de Noé.
Ouais, bah, disons que en fait, la complainte, c'est l'état des lieux. C'est-à-dire, soit on peut faire semblant que la perte n'a pas eu lieu ou n'est pas en train de se passer. Et puis là, on s'invente une sorte de fantaisie. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, je trouve que chanter, c'est quand même prendre la parole. Donc, prendre la parole sur quelque chose qui n'a pas de fondation ou qui est fondé sur une crainte ou une peur ou un déni, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais on ne peut pas rester non plus dans le deuil ou dans le désespoir, même si on évoque la chute. Donc j'ai essayé, par ces chansons, d'évoquer une sorte de clair-obscur à travers l'album qui va du désespoir à l'espoir, de l'obscurité à la lumière.
C'est le mythe de l'expulsion du Jardin d'Éden.
Oui, absolument. J'évoque beaucoup ça parce que le fait qu'on ne se rend pas compte qu'on vit dans un genre de paradis, simplement parce que le corps doit périr, on oublie qu'on est en fait dans le paradis. Le paradis, c'est quoi? C'est le mystère de la création. Personne ne sait comment et pourquoi la vie a lieu. Donc nous sommes partis d'un mystère. Et moi, je considère qu'au contraire, on est en train de nous expulser nous-mêmes de notre propre paradis pour aller jusqu'à la folie des billionnaires aujourd'hui qui sont déjà prêts à coloniser un bout d'un rocher dans l'espace quand déjà le paradis est là. Enfin, c'est absurde, c'est Stanley Kubrick a tout compris dans Dr. Strangelove.
Que fait-on pour les bombardiers? J'imagine qu'il faut les rappeler immédiatement.
Colonel, les bombardiers ne seront pas rappelés. J'ai donné l'ordre d'attaquer et je le maintiens.
C'est notre inaptitude à la limite, quoi.
Oui. Il y a une cyste locale. Moi, je suis aussi un amoureux des cystes locales
de Cévennes.
Qui s'appelle le Cystus salvifolius, qui a une très très jolie pétale blanche avec une petite pointe noire dedans. Ce qui est extraordinaire avec c'est que dès qu'il y a un trou, c'est-à-dire dès qu'il n'y a pas un arbre et qu'il y a un espace et où le soleil passe,
hop,
le cyste est là. Et son cycle de vie correspond à l'espace qu'il va avoir avant qu'un arbre prend la lumière.
D'accord.
Et en fait, c'est assez extraordinaire. Donc, dès qu'il y a un trou, il y a un cyste.
On est dans les Cévennes, avec des pentes très rapides et avec l'influence méditerranéenne que l'on connaît. Et ben voilà, la voilà, notre jolie source.
Voilà.
Oh, attendez, il faut lui laisser la parole, là.
Mais pas perdre le sens du sentier. Reste à trouver, reste à trouver. Mes mains touchent l'eau de la rosée. Laisse-la rosée, laisse-la rosée.
Et là, juste au-dessus, il y a une mini-version de cette voûte. Et on l'a fait nous-mêmes. Et on l'a fait en pierre sèche avec un petit peu de mortier caché derrière parce que juste pour tenir la voûte. Mais on a recréé cette voûte en pierre énorme qui est en bas du ravin, ici à la source. Alors après, sûrement les Cévenols d'ici me prendraient vraiment pour un néo-bobo fou d'avoir juste, au lieu de faire un truc plus pratique, j'ai fait quelque chose de très beau, mais ça fait partie de ma folie et de mon art.
C'est votre vie.
C'est voilà, tout. C'est ma vie et j'ai voulu faire de cet endroit où jaillit l'eau de la montagne un lieu comme un lieu de pèlerinage. C'est tout ça, en fait.
Tes lèvres, mes fleurs, ma bien-aimée, ma bien-aimée, ma bien-aimée.
Cher Pierce, que peut-on vous souhaiter maintenant?
Je veux pas faire mon malin, mais je souhaite quelque part souvent de ne pas souhaiter, en fait. Ce serait ça mon souhait, c'est-à-dire de se rendre compte et de profiter et de partager ce qu'on a déjà dans nos mains sans se rendre compte. Et même si, voilà, on est allé le chercher et on s'est en occupé avec beaucoup d'efforts et beaucoup de soins, et c'est un peu la folie de remettre un endroit qui était tombé en ruine. Je me rends compte aussi de la chance que j'ai de pouvoir faire ça, de partager ce qui se dégage de ce petit bout de paradis. Ce sera mon plus grand plaisir.
Soigner la terre.
Exactement. Soigner la terre, et en la soignant, soignons nous-mêmes.
Au revoir Pierce, et à bientôt.
Au revoir Denis, merci beaucoup.
Vous voyez, le chant de la terre, ça c'est vraiment des mots qui correspondent parfaitement donc à Pierce Facchini. Moi, le seul souhait, ce sera de le revoir donc chez lui tranquillement, en regardant le soleil décliner de son lieu, de sa romande Caudière. Et puis voilà, donc cette mise en harmonie entre nos optimismes naturels et aussi une implacable lucidité sur tout ce qui se passe actuellement. Merci à Claire Levasseur d'avoir mixé donc ce reportage. À Xavier Pessugia d'avoir réalisé l'émission, d'avoir choisi tous les petits signes, toutes les musiques, tous les éléments donc dans ce reportage. À Camille Blanès, bien sûr aussi, Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 de Mon Amour. Alors la semaine prochaine, eh ben, ça va être un autre lieu, donc un massif que vous connaissez. Il est tout seul, c'est vraiment dans le Vaucluse, on le voit de partout, c'est le Mont Ventoux. Et on va le découvrir sans forcément vous parler de bicyclette. Ben ouais, on sait se tenir. Non, il y a beaucoup de choses à raconter, donc d'un point de vue naturalisme sur ce Mont Ventoux. Écoutez, les podcasts, vous en avez l'habitude, hein, aussi bien ceux de la Tulle du Mont Petit Loup, ça reprend aussi, Bestiole, et puis donc CO2 Mon Amour, et puis bah, le Twitter et Instagram si vous le souhaitez, donc aussi avec tout simplement Denis Chessou. Voilà, il me reste plus donc, ça va être très important. Dans quelques instants, ce sera donc Antoine Chao, mais quand même, encore une chose, vous souhaitez une très bonne fin de dimanche.